RFI, grand reportage.
Hassan Diop.
Au Brésil, l'élection de Jair Bolsonaro inquiète les organisations environnementales. Fervent défenseur des intérêts de l'agrobusiness, le futur président d'extrême droite considère la préservation de l'environnement comme un coût plutôt qu'un investissement. Il a récemment appuyé le retrait du Brésil pour accueillir la COP25 pour raisons budgétaires, dit-il, et menacé de quitter les accords de Paris. Les défenseurs d'une agriculture alternative, sociale, solidaire et biologique redoutent donc les effets de sa politique. Dans un pays considéré à la fois comme le grenier et le poumon de la planète, eh bien l'environnement est une question crucial qui sera au centre des débats des 4 prochaines années. Brésil, une agriculture à 2 visages, c'est un grand reportage de Sarah Cozzolino.
Nous sommes dans la petite ville de Campo do Meio, dans l'état du Minas Gerais. Ce soir, le mouvement des travailleurs sans terre organise une manifestation contre l'expulsion de 450 familles du Quilombo Campo Grande. Elles sont réparties dans plusieurs campements qu'elles occupent depuis une vingtaine d'années.
Ce que vit ici le Quilombo, c'est ce qui peut commencer à se produire dans tout le pays. Alors il ne faut pas oublier, personne ne lâche la main de personne. S'en prendre à Campo do Meio, c'est s'en prendre à tout le sud de la région, à toute l'agriculture écologique du Brésil, à tous les mouvements environnementaux.
Daniel Tigel fait partie d'une autre association environnementale de la région. Il a fait le déplacement pour soutenir le mouvement.
Nous ne laisserons pas le Quilombo Campo Grande seul. Vous n'êtes pas seul. Vous pouvez compter sur nous jusqu'au bout.
Les habitants des campements sont menacés d'expulsion depuis le début du mois de novembre. Un riche propriétaire terrien entend racheter le terrain d'une ancienne usine dont la dette de 300 millions de reais, soit 68 millions d'euros, équivaut à plus de 5 fois la valeur de l'usine. Pour Daniel Tigel, c'est un premier indice du tournant que prendra la question environnementale sous le mandat de Jair Bolsonaro.
Ils disent clairement qu'ils veulent criminaliser formellement comme terroriste, l'organisation des mouvements de sans terre. Donc, on sait qu'ils sont des cibles très importantes. Ce sont des familles qui produisent, qui font du bien, qui préservent la terre, qui ont récupéré toute cette terre ici. Quand on parle de l'élection de Jair Bolsonaro, on parle de la victoire, pas seulement d'une personne ou d'un parti, mais la victoire d'une vision du monde. Et c'est une vision du monde très intolérante à la démocratie même. On sait que ce qui se passe ici, c'est seulement le point d'un iceberg beaucoup plus grand de ce qui vient avec ce gouvernement.
Cette pente-là et tout autour de la colline là-bas, c'est le campement Rosa Luxembourg.
Ricardo Henrique, dit Tatou, nous accompagne pour la visite. Nous arrivons sur une colline d'où on peut observer les différents campements qu'occupent les sans-terre.
Plus au fond, par là, vous voyez cette ligne de bananes. À partir de là, c'est le campement Sidney Dias.
Au milieu de tout ça, une ancienne usine de transformation de canne à sucre. Elle a fait faillite en 1996 et les anciens travailleurs de l'usine n'ont jamais été indemnisés. Ils se sont retrouvés au chômage du jour au lendemain. Alors certains ont commencé à occuper les terres voisines et à les cultiver pour leur consommation personnelle.
Ça, c'est l'ancienne usine Ariadnopolis. Autour, la terre n'était plus productive. Et maintenant, on essaye de la récupérer en tentant de la dépolluer. L'usine a beaucoup dégradé les sols. Une grande partie des sols qu'elle cultivait ont été vidés de leurs nutriments. Au-delà du mouvement, notre but, c'est de récupérer ces sols pour les rendre cultivables d'une manière agroécologique.
Le Quilombo Campo Grande, c'est près de 2000 personnes qui cultivent 3000 hectares en agriculture biologique ou en cours de conversion.
Tout ça, c'est le fruit de la terre. Ici, on a plusieurs variétés. Du gombo, du chou, de la laitue, des petits oignons, de la betterave. On a de tout ici.
Sébastien Da Silva nous fait visiter ses champs. Il a tout quitté pour venir ici avec sa femme il y a 6 ans.
Il y a beaucoup de personnes ici qui n'ont même pas
Il y a beaucoup de familles ici qui n'ont même pas de voiture pour aller jusqu'en ville. Comment est-ce qu'elles vont être expulsées? Où est-ce qu'elles vont aller? Sous les ponts? Il y a beaucoup d'enfants ici, beaucoup de personnes qui n'ont nulle part où aller. Il y en a qui ont vendu tout ce qu'ils avaient pour investir ici, et maintenant, ils vont être expulsés. Mais ils vont où?
Agora vai ser despejado, para onde é que ele vai?
Né? Vai precisar trocar de terra aqui? Hã?
Depuis la décision de justice, une semaine plus tôt, les habitants s'activent. Entre deux campements, un groupe d'hommes est en train de déplacer des troncs d'arbres et des pneus. Ici, tous savent qu'ils ne pourront rien contre la police si elle décide de les expulser de force. Mais une centaine de personnes surveillent plusieurs points des campements jour et nuit. Daniel Tigel les sent fatigués.
C'est un sentiment de guerre. Tu peux imaginer qu'est-ce qui se passe avec leur santé. Lui, il vient de dire qu'il ne peut dormir qu'avec des médicaments. On est très tensionné. Il y a des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Il y a le sentiment des femmes, des gens qui sont plus âgés qui ne peuvent pas sortir pour aller chercher un médecin ou aller dans un hôpital. Parce que s'ils sortent ici, ils peuvent perdre leur maison.
Dans l'école publique, construite sur le campement il y a 6 ans, les dirigeants du mouvement sortent d'une réunion. Twira Toulé est la coordinatrice du mouvement dans le sud de l'état du Minas Gerais. Fatiguée, après 24 heures sans sommeil, elle doit s'asseoir à l'ombre d'un arbre pour nous parler.
Que ces familles reçoivent un ordre d'expulsion sous 7 jours, c'est un indice pour notre avenir. Ce qui nous attend, c'est une grande offensive contre les travailleurs, contre les organisations sociales. Nous n'avons pas d'armes. Nos armes, ce sont nos outils de travail. Mais nous avons le peuple, beaucoup de personnes. Et notre forme de résistance se trouve dans cette organisation populaire, tous ensemble, pour résister avec notre courage. Parce que ce qu'on a ici, c'est nos vies, rien de plus.
De résister com coragem, porque o que a gente tem aqui é nossas vidas. A gente não tem outra coisa.
Le Brésil est un des plus grands producteurs de canne à sucre. Dans l'état de São Paulo, à l'est du pays, se situe la ville de Ribeirão Preto, considérée comme la capitale de l'agrobusiness.
On vient de conclure une vente avec un groupe français.
Marcio Souza Leão est directeur commercial de TMA, une entreprise familiale qui produit des machines pour les grands producteurs de canne à sucre. On fait le tour de l'usine, des zones de montage, assemblage, peinture. L'industrie se porte très bien, selon Marcio.
Par rapport aux 3 premiers mois de l'année, nous avons maintenant une croissance de l'ordre de 15 à 18%. C'est énorme. Le marché s'était arrêté et on a réduit nos dépenses où c'était possible. Et maintenant, grâce à Dieu, c'est terminé. Les commandes reprennent.
C'est déjà une première conséquence positive des élections, ce marché qui va de mieux en mieux.
Oui, évidemment, c'est un signal très encourageant. Même la nomination de la nouvelle ministre de l'Agriculture, tout ça nous redonne le moral. Et évidemment, c'est directement lié.
Dans cette ville de près de 600 000 habitants, 70% d'entre eux ont voté pour Jair Bolsonaro au second tour des élections présidentielles. Le nom de la future ministre de l'Agriculture, Teresa Cristina, a été reçu avec beaucoup d'enthousiasme. Elle est une des figures très connues du Front parlementaire des ruralistes. Autrement dit, un des lobbies les plus influents au sein de la Chambre des députés qui défend les intérêts des agriculteurs et des éleveurs. Monica Bergamaschi, présidente de l'association brésilienne d'agrobusiness de la région de Ribeirão Preto, nous reçoit dans ses bureaux. Pour elle, la nomination de Teresa Cristina au poste de ministre de l'Agriculture, c'est l'espoir de plus de flexibilité en matière de normes environnementales.
Nous avons seulement dans la partie dédiée à l'environnement plus de 14 000 normes. Donc imaginez un petit agriculteur qui travaille avec son épouse, ses enfants et peut-être un ou deux employés. Qui a le temps ou les connaissances pour étudier 14 000 normes? Et il n'est pas rare qu'elles se contredisent entre elles. Donc enlevons cette montagne de choses inutiles qu'il y a dans nos lois, qui pèsent sur les épaules des travailleurs, pour qu'on puisse enfin perdre moins de temps. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de personnes dans les grandes entreprises qui s'occupent des domaines bureaucratiques et administratifs que du commerce à proprement parler. Et c'est une erreur.
Sur le terrain, les agriculteurs se disent étouffés par ces normes. À une centaine de kilomètres de Ribera en Preto, Luis Carlos Yamaguchi cultive essentiellement du soja, la culture la plus importante du pays. On traverse ses champs en voiture. Il pleut des cordes depuis plus d'une semaine sur cette terre rouge, riche en argile et très fertile. Luis Carlos possède 500 hectares ici, à Ituverava, et 800 hectares dans l'état voisin du Minas Gerais. Luis Carlos utilise plusieurs sortes de pesticides sur ses cultures. Il estime que les agriculteurs sont souvent injustement sanctionnés pour l'utilisation de ces produits.
Ici, on n'utilise que ce qui est nécessaire, ni plus, ni moins. La quantité recommandée par les experts. Et même comme ça, ça nous coûte très cher, donc on ne peut pas en utiliser de façon exagérée. Les défenseurs de l'environnement critiquent les pesticides par manque de connaissances, alors que nous, les agriculteurs, on connaît les effets de chaque pesticide. Donc il faut nous laisser travailler avec ces produits, au lieu d'être dépendant de personnes là-haut pour savoir ce qu'on peut faire ou non. Il faut qu'on puisse utiliser les meilleurs produits qui combattent les insectes.
Il est difficile d'imaginer ce que sera la politique environnementale sous Jair Bolsonaro, tant le futur président revient régulièrement sur ses déclarations.
Je veux défendre l'environnement, mais pas de façon radicale comme c'est le cas actuellement.
S'il a finalement renoncé à fusionner les ministères de l'agriculture et de l'environnement, il a récemment fortement critiqué les deux agences publiques protectrices de l'environnement.
Je ne vais plus admettre que l'IBAMA et l'ICM Bio infligent des amendes à tort et à travers. La fête est finie.
Jair Bolsonaro veut réduire le montant des amendes pour crimes environnementaux, alors que ses agences, l'IBAMA et l'ICM Bio, sont les gardiennes des abus contre l'environnement au Brésil. Des abus qui sont quotidiens. Cette année, la déforestation s'est accrue de près de 14% entre juillet 2017 et 2018, l'équivalent d'un million de terrains de football. Mais la préservation de la forêt amazonienne, connue comme le poumon vert de la planète, ainsi que la question de la démarcation des terres indigènes, ne semble pas intéresser le futur président brésilien. Claudia Perencin est membre de l'association écologique et culturelle Bois Brésil à Ribeira en Preto.
Beaucoup pensent à l'Amazonie comme à quelque chose de lointain, mais c'est une erreur de penser ça, car nous avons besoin de l'Amazonie et de sa forêt. Et les peuples indigènes auxquels Bolsonaro a dit qu'il n'accorderait pas un seul centimètre de terre supplémentaire vont rester sur le bord de la route, comme c'est déjà le cas pour beaucoup de tribus. La pollution des fleuves liée à l'exploitation minière, au mercure, va augmenter. Donc la protection des indigènes est une question délicate, et lutter pour la survie de ces ethnies, c'est lutter pour notre survie en réalité, pour notre eau.
La ville de Ribeira en Preto compte à peine deux associations environnementales. Marcos Tinoco est président de l'Association des Amis de l'Environnement et de l'Écologie.
Dans la ville de Ribeira Preto, il existe un tout petit groupe de personnes qui veut faire quelque chose pour améliorer la qualité de vie. Donc, on plante des arbres, on fait des jardins communautaires, mais c'est pas grand-chose. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent dépendent souvent directement ou indirectement de l'agrobusiness. Et ceux qui ont moins de moyens n'ont pas vraiment les conditions culturelles pour pouvoir penser à ça. Ils cherchent seulement à survivre. Donc, c'est difficile d'imaginer à court terme une grande transformation de la société brésilienne.
Aujourd'hui, Marcos Tinoco creuse des trous pour planter des arbres sur un rond-point. Mais il remarque que les derniers qu'il a plantés ont été détruits par le tracteur de la ville qui tond les pelouses. Il s'avoue assez découragé.
Il y a une étude d'un professeur d'université qui s'appelle l'aveuglement botanique. Les personnes sont de plus en plus aveugles à tout ce qui concerne les arbres. Elles passent et les arbres et plantes sont invisibles pour elles. Et elles n'ont pas cette conscience du fait qu'on a besoin de ces plantes pour l'équilibre de l'environnement.
Et elles n'ont pas cette conscience de que precisam das plantas para poder ter meio ambiente equilibrado.
Selon la loi, les agriculteurs de la région de Ribeira en Preto devraient avoir 20% de forêts natives préservées sur leur culture. Manuel Tavares, fondateur de l'association Bois Brésil, ne croit pas en la bonne volonté des grands propriétaires terriens.
Dans la région de Ribeirão Preto, nous avons moins de 5% de forêts natives, donc ils n'ont jamais respecté la législation environnementale. Pour ce qui est des pesticides, quand on analyse des produits brésiliens comme le jus d'orange ou d'autres, on voit qu'il y a une quantité de pesticides qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, le Brésil est champion du monde des pesticides, donc en vérité, il n'y a pas vraiment de contrôle, ils font ce qu'ils veulent. Et d'un autre côté, si on regarde les aides publiques, ils en bénéficient largement. On ne sait pas vraiment si c'est l'agriculture qui soutient le Brésil, comme on dit, ou si ce n'est pas plutôt le peuple brésilien qui soutient l'agriculture. En vérité, ceux qui nourrissent les Brésiliens sont les petits agriculteurs, qui produisent 70% de ce qui est consommé ici et qui touchent moins de 2% de toutes les aides rurales du Brésil.
Ces petits producteurs, on les retrouve sur le marché de Ibirapuera à São Paulo. C'est un des seuls marchés de la ville où les producteurs vendent leurs produits exclusivement issus de l'agriculture biologique.
Ce marché était à l'intérieur du parc avant, mais il y a eu des travaux, puis la mairie ne nous a plus laissé y retourner. Et nous sommes donc restés dehors. On n'est pas du tout soutenu. Regardez, on a un joli parc, tout ce qu'il faut pour être en harmonie avec notre marché. Et pourtant, on est obligé de rester dehors.
E, no entanto, nós temos que ficar do lado de fora.
Poliana était avocate, elle est désormais boulangère. Elle fait des pains avec différentes farines biologiques, mais elle s'inquiète pour l'avenir de son secteur.
Nesse momento, a gente tem uma preocupação política.
En ce moment, nous sommes assez inquiets au niveau politique. Nous ne savons pas vraiment quelle direction prendra la politique agricole au niveau de la valorisation de la production biologique. On a très peur que le chemin n'aille que du côté de l'agro-business. Et si ça se produit, ce sera vraiment dommage pour le bio.
David Ralitera est français. En 2012, il a quitté le monde de la publicité pour se convertir au bio.
À la ferme, on plante énormément de plantes exotiques. Il y a des courgettes, des haricots verts. Là, cette plante s'appelle Panée. Panée de Guernesey.
Mais quand on regarde les stands voisins, la plupart des légumes bio sont dans des emballages plastiques. La faute au consommateur, selon David.
Ici, on essaye d'avoir une expérience de marché ouvert. Mais le public qui vient ici, c'est des gens qui, 6 fois par semaine, vont au supermarché. Donc il faut qu'on puisse, tu vois, leur donner cette sécurité alimentaire. C'est propre, c'est sous plastique, c'est nickel. La culture du AOC, si ça n'existe pas. La culture du local... ça n'existe pas. La culture de la saison, oublie. Il va y avoir des carottes toute l'année, il va y avoir des oranges toute l'année, des tomates toute l'année. Donc ça, c'est assez frustrant. C'est-à-dire qu'on va sur un marché bio, on est hyper questionné, pressionné, interrogé sur le fait que est-ce que tu utilises des agrotoxiques, est-ce que tu utilises des pesticides, est-ce que tu fais ci, est-ce que tu fais tes composts, plein de choses. Et quand tu regardes de l'autre côté du miroir, tu te rends compte que ton consommateur, il n'est pas bio. Il est 100% conventionnel.
Bicyclette et panier en osier, Fernanda et Elisa sont des clientes régulières du marché d'Ibirapuera. Elles nous rappellent que le Brésil n'en est qu'à ses débuts avec le bio.
C'est difficile. Je pense qu'il y a encore un long chemin. Mais l'important, c'est de commencer. Peu importe comment, celui qui utilise un sac plastique va voir que l'autre personne n'en a pas et peut-être qu'un jour, il modifiera son comportement. C'est urgent. Mais il faut déjà voir que cette prise de conscience est en pleine évolution.
Et vous avez peur d'un certain recul avec l'arrivée de Jair Bolsonaro au pouvoir ?
Très peur. Plus que la peur, c'est la certitude qu'on va reculer, malheureusement. Je pense que fréquenter ce genre de marché, c'est déjà une attitude de résistance. Avoir une plus grande conscience d'où vous faites vos courses, ce que vous soutenez, c'est très important. Moi, j'ai commencé à soutenir financièrement le mouvement des sans-terres. Valoriser ces initiatives et ces institutions, je pense que c'est très important. Le marché bio, ou tout simplement consommer bio, ça n'est plus seulement une question de santé, c'est devenu une question politique.
Mas acho que, acima de tudo, é uma questão política, né?
Brésil, une agriculture à deux visages, un grand reportage de Sarah Cozzolino, réalisation Pierre Chaffanjon.